Chers frères et sœurs, la première lecture que nous avons entendue évoque une époque relativement peu connue de l'histoire du peuple hébreu, du peuple juif. Il est revenu d'exil et voilà en gros une cinquantaine d'années qui se sont déjà écoulées depuis ce retour. Le temple a été reconstruit à Jérusalem avec bien des difficultés. Il a fallu attendre une vingtaine d'années après le retour pour qu'il commence à émerger de terre. Et maintenant, il faut reconstruire les murailles. Esdras et Néhémie s'y emploient. Et vous avez vu, le peuple est là. On fait une grande cérémonie. Mais le peuple est insatisfait. On est revenu, mais ce n'est pas comme avant. La splendeur de Salomon est définitivement disparue. Quelque chose a été perdu. Peut-être même l'espérance. Les séquelles de ces ravages qu'a fait Nabucodonosor à Jérusalem, ces saccages, cette dévastation du temple, tout ça a marqué profondément les esprits. Le peuple est brisé. Quelque chose est vraiment cassé. Et il y a là comme cette terrible nostalgie d'un entant, d'un passé qui était plus beau. L'aujourd'hui manque de sens. Bref, ce peuple est pauvre. Et c'est pour ça qu'il est prêt. Il est prêt pour écouter la parole, parce qu'il est pauvre de sens. C'est très bien de reconstruire les murailles de Jérusalem, mais il manque un pan énorme pour se reconstruire intérieurement. Il manque un sens, et ce sens, c'est la parole qui va pouvoir le donner. Il va pouvoir écouter cette parole avec une fraîcheur toute nouvelle, avec un désir qu'il n'a jamais connu, parce que la parole est devenue vitale. Ce peuple est affamé, assoiffé de la parole, comme le dit le livre d'Amos. « Voici des jours, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays, non une faim de pain, ni de soif d'eau, mais une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. » Qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous avons faim et soif de cette parole? Est-ce qu'elle est vitale? Est-ce que nous sommes pauvres ou comblés par bien des choses? Est-ce que notre vie a un sens sans Dieu, sans sa parole, ce qui se peut tout à fait, dans la sécurité de nos biens, de nos carrières, etc.? Ou est-ce qu'il y a une béance en nous qui fera que nous pourrons accueillir cette parole pour ce qu'elle est, une parole qui sauve? Je me disais, peut-être nous faut-il, nous qui, pour la plupart, avons baigné dans la foi chrétienne dès notre enfance, peut-être nous faut-il retrouver la détresse infinie de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui se rendent compte à un moment donné du non-sens d'une vie sans Dieu. Je pense à Maritain, Raïssa et Jacques, hein, ce couple qui n'avait pas connu Dieu ou simplement par oui dire et qui suivait ses cours à la Sorbonne, des cours extrêmement desséchants, des cours purement positivistes où le sens de la vie n'était pas du tout évoqué et ils étaient au bord du désespoir, au bord du suicide. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent des personnes qui vont les ouvrir à cette parole de Dieu, Peggy, puis le philosophe Bergson, puis Léon Blois. Et voilà, leur âme sèche va à nouveau connaître cette rosée bienfaisante de la parole. Lorsqu'enfin Jacques et moi nous prîmes le chemin du Collège de France où Bergson enseignait, nous étions aux portes du désespoir, disait Raïssa. nous faisions le bilan de tout ce que nos maîtres nous avaient donné comme viatique. À nous, ces très jeunes, qui attendions d'eux des principes de sens et d'action, et nous ne tenions dans nos mains que mort et poussière. Voilà. N'oublions pas que nous sommes déjà très riches de connaître cette parole et remettons-nous parfois dans cette position de pauvreté de cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Une autre petite anecdote que j'ai déjà citée. Quand j'étais en Argentine et que nous avions fait une mission dans les hautes montagnes de la Cordillère, un village était particulièrement reculé. On n'y arrivait qu'à pied ou qu'en mule et la route carrossable était très très récente. Un village vraiment loin de tout, aucune communication ne passait. Les gens se sentaient délaissés, aux marges du monde, aux marges de la prospérité, et beaucoup désespérés, beaucoup d'alcoolisme. Une petite femme évangélique qui disait « Tous les jours, je médite un verset de la parole et je l'apprends par cœur, et c'est cela qui me donne de tenir debout. » La parole, pour elle, était vitale. C'est la première des choses. Notre pauvreté pour accueillir cette parole comme une richesse, comme un viatique. Deuxième point, si nous continuons la lecture de ce texte de Néhémie, il nous est dit ceci. L'assemblée était composée d'hommes, de femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Et puis un peu plus loin, Esdras, le scribe, lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Et l'on pouvait comprendre. Ce n'est pas des paroles magiques qu'il suffirait de prononcer pour que tout aille mieux. C'est le propre des paroles magiques. Plus elles sont ésotériques et incompréhensibles, plus elles nous semblent avoir d'effet dans la logique de la magie. Ici, non. Cette parole, il faut la comprendre. Vous l'avez compris ici, la Bible est écrite en hébreu. Le peuple est allé en Mésopotamie, au royaume de Babylone. Il a perdu sa langue maternelle, qui était l'hébreu. Il a appris la langue du dominateur, qui est l'araméen. Il ne sait plus que parler araméen. Il a perdu ses racines. C'est pour cela qu'une traduction doit être faite pour qu'il puisse comprendre. Vous voyez, chers frères et sœurs, l'importance de la traduction qui a tellement marqué l'histoire de l'Église. On s'est bien rendu compte qu'au milieu du Moyen-Âge, les gens ne parlaient plus latin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Saint-Louis lui-même a une Bible traduite et puis d'autres exemplaires. Qu'est-ce qui se passe à la Réforme? Tout est prêt dans les tiroirs du Vatican, si je puis dire, pour qu'on puisse proposer une version en langue vernaculaire de la Bible, en langue que les gens comprennent. Les protestants s'emparent du projet, comme on veut se distinguer d'eux. On la garde en latin, on canonise la Vulgate, qui est la Bible en latin. Les gens comprennent plus ou moins. Et il faudra attendre notre 20e siècle, le siècle dernier, pour que, à nouveau, cette parole puisse être comprise. Pourquoi, chers et sœurs, faut-il comprendre cette parole? Parce qu'elle s'adresse à notre intelligence. La plupart du temps, quand on parle à des gens, même des bons chrétiens, quand on parle de la Bible, ils disent « Oh, la Bible, j'y comprends rien ». Et puis, c'est un peu la fin de non-recevoir qu'on nous donne. Du coup, la Bible n'est pas aimée parce qu'elle n'est pas comprise. Et la parole ne peut pas pousser ses racines en nous si elle n'est pas comprise. C'est la parabole du semeur de notre Seigneur dans Matthieu 13. Vous donc écoutez ce que signifie cette parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Celui, en revanche, qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. il porte du fruit. Un grain qui en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors, frères et sœurs, cette parole, la lisons-nous déjà? La comprenons-nous? Nous donnons-nous les moyens de la comprendre? Peut-elle du coup pénétrer en nous? Pouvons-nous, à partir de là, l'aimer et ne plus pouvoir nous en passer? C'est pour ça, chers frères et sœurs, que j'ai mis sur vos bancs un petit feuillet avec quelques moyens pour aimer la parole. Marie-Noël Tabu, je cite mes sources, qui commente régulièrement les paroles du dimanche sur un site de la CEF. C'est en accès libre et c'est tout à fait remarquable, quel que soit notre niveau d'avancement dans la Bible. On ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas arriver le dimanche en disant « cette parole, elle ne me dit rien, j'y comprends rien ». La grâce supplée à nos faiblesses, mais pas à notre paresse. Et là, il faut travailler. Vous savez que pour les Juifs, un des grands commandements, c'est l'étude. Et les catholiques, on étudie très peu, très très peu, un peu plus aujourd'hui. Mais n'oublions pas qu'il y a là quelque chose de vital pour la survie, pour la vitalité de notre foi. Paul Adrien, qui a commencé aussi un commentaire jour après jour de la parole de Dieu dans une Lectio Divina continue, et puis un très bon petit site protestant que je vous ai mis, Top Chrétien, Top Bible, où les commentaires sont remarquables de simplicité et d'exactitude avec une portée spirituelle qui nourrit notre cœur. On a de quoi. On a de quoi aujourd'hui. On a beaucoup de moyens gratuits. Une dernière chose. Cette parole, vous l'avez entendue, Esdras la proclame et l'est traduite. Et puis, il nous a dit autre chose au verset 9. Néhémie le gouverneur et Esdras et les Lévites qui donnaient les explications dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Qu'est-ce qui se passe? On a lu la parole, le peuple est en larmes parce que c'est toute cette nostalgie que j'ai évoquée, cette parole qu'ils ne comprennent plus, etc. dans la langue originale. Ne pleurez pas, ne prenez pas le deuil. Autrement dit, il faut quelqu'un d'extérieur qui puisse interpréter cette parole, qui puisse nous dire quelle est sa fin, à quoi elle tend, à quoi elle vise. Si on est simplement en solipsisme, en circuit fermé avec la parole de Dieu, on lui fait dire ce qu'on veut, n'importe quoi, n'importe qui peut prononcer la parole pour lui faire dire ce qu'il veut, y compris le démon, vous le savez bien, dans les tentations. Il utilise la parole de Dieu, il la pervertit. Donc, comme le disait notre deuxième lecture aujourd'hui, c'est en Église qu'il nous faut lire la parole authentiquement interprétée. Mais je vais plus loin. C'est qu'aussi, la parole de Dieu, elle vient de ce livre, de ce lectionnaire que j'ai sous les yeux, mais elle vient aussi de tous les événements de votre vie. Elle vient des paroles pour vous, jeune marié, de votre conjoint. Elle vient du pauvre qui est là. Elle vient peut-être d'une remarque qu'on nous a faite, qu'on n'aurait pas aimé entendre. Voilà. Eh bien, tout cela, il faut bien voir que la parole est beaucoup plus large, nous arrive par bien des canaux et a besoin d'être interprétée dans tous les cas. Quand cette parole, à ce moment-là, a pu nous modifier, nous façonner, travailler notre cœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose d'extraordinaire. La figure du Christ va se dessiner. Ignorer le Christ, c'est ignorer les Écritures, disait saint Jérôme, mais l'inverse est vrai. Connaître les Écritures, c'est connaître le Christ, c'est se proposer de l'aimer. Vous vous souvenez, c'est si beau, nous fêterons saint Antoine de Padoue dans quelque temps. Vous savez, ces images de saint Antoine, qu'est-ce que c'est ? Alors, on lui demande bien sûr de retrouver nos objets perdus, mais c'est un peu limité. Alors, qu'est-ce que c'est saint Antoine ? Il est appelé dans l'Église le docteur évangélique. Il connaissait par cœur les évangiles, les épîtres de Paul. Et comment est-ce qu'on le représente ? Avec la parole dans les mains. Et quoi sur cette parole, sur ce livre ouvert ? L'enfant Jésus. parce que cette parole lui a donné le Christ qui ne demande qu'à croître avec lui. Voilà ce sacrement du Christ qu'est la parole dont nous ne pouvons nous passer. Et bien que ce Christ qui aujourd'hui accomplit les Écritures dans l'évangile de Luc que nous avons lu, qu'il soit vraiment notre Seigneur et notre Maître, qu'il nous enseigne et qu'il nous accompagne tout au long de notre vie, lui qui est né de Marie.